Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous, en direct jusqu'à 20h50 avec toute l'équipe Émilie Trane-Guyenne et son choix de l'actu du jour.
Oui, le premier des premiers tours de cette présidentielle et c'est une surprise.
Mohamed Bouefsi pour la story consacrée ce soir à...
À Emmanuel Macron, son grand pardon envers les harkis.
Mathieu, au menu du 5 sur 5 ce soir.
Vous avez de bons souvenirs de la cantine, Babette?
Horrible.
Eh bien, on va casser des idées reçues. Les parents adorent la cantine.
Mais ils n'y vont pas, les parents. Pierre, dans votre œil ce soir.
Je vous raconterai la première candidature d'un écolo à la présidentielle. C'était en 1974. Il s'appelait René Dumont. Il avait un magnifique pull à col roulé rouge.
Et vous étiez déjà journaliste?
Depuis 9 ans.
Depuis 9 ans. L'édito de Patrick ce soir.
Les élections à la Russe.
Autant de sujets qu'on soumet ce soir à notre invité du jour, Christiane Taubira, ancienne garde des Sceaux, qui signe chez Robert Laffont son premier recueil de nouvelles, ses morceaux de vie comme carreau cassé. Bonsoir Christiane
Taubira-Elisabeth.
Merci d'être
présente
ce soir.
Ici.
Oui.
Je vous en prie. Asseyez-vous, c'est votre place, elle vous attendait. Ces morceaux de vie, ce sont des morceaux de vie de plusieurs femmes qui se battent pour leur liberté, des portraits qui résonnent évidemment avec l'actualité. À vos côtés d'ailleurs, tout à l'heure, l'actrice et productrice Marion Cotillard, au soutien de jeunes militants qui s'engagent pour changer le monde, partout dans le monde. Votre rencontre est à suivre à partir de 19h45 et avant le dîner de C'est à vous. Un dîner préparé ce soir par Emmanuel Perraudin, qui est un chef marseillais. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir, merci de m'accueillir.
Une bouillabaisse, forcément, au menu.
Oui, mais une bouillabaisse borgne.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire sans poisson, que des légumes.
C'est ça qui la rend borgne.
C'est ça qui la rend borgne. Elle lui donne, l'œil lui donne un air cyclopéen. L'œil, enfin l'œuf lui donne un œil, un air cyclopéen.
Merci beaucoup. À tout à l'heure, Emmanuel. Mais d'abord, Patrick, vous voulez nous parler des élections russes qui se sont achevées hier.
Des élections, pas vraiment. Disons plutôt le folklore qui précède désormais tous les triomphes du parti de Poutine, lequel n'a plus beaucoup d'adversaires puisque la plupart des opposants sont soit en prison comme Alexei Navalny, soit déclarés traîtres à la patrie et interdits de se présenter, soit réduits au silence sur les réseaux sociaux. Il n'empêche, pour le Kremlin, tous les moyens sont bons pour faire grimper le score du régime le plus haut possible. Tous les moyens et toutes les techniques, vous allez le voir sur ces quelques vidéos collectées par le correspondant permanent du Monde à Moscou, Benoît Vidkine. Le plus simple, mais pas le plus discret, venir confisquer dans le bureau de vote les bulletins de l'opposition. Voilà, vous le voyez ici, comme ça, l'électeur a beaucoup moins l'embarras du choix. Le plus classique, le bourrage d'urnes. Ici, sur le mode compulsif, vous voyez, ça se fait à domicile et dans une valise. Et puis là, sur un mode furtif, avec, vous allez le voir, un type caché derrière un drapeau et une urne cachée derrière une dame.
Mais on a bien
et voilà, ça se voit. Et on voit la main qui met les bulletins dans l'urne. Sinon, vous avez la technique du bourrage de doudoune. Voilà, la doudoune est bourrée ou rembourrée, comme on voudra. Et ensuite, le bourrage se fait en vidant la doudoune dans l'urne. Et si on n'a pas assez bourré pendant le vote, il est toujours possible de se rattraper au dépouillement en rajoutant un ou plusieurs sacs de bulletins à l'ouverture de l'urne. Alors vous me direz, toutes ces images ont été prises ce week-end, ces derniers jours. Vous me direz, mais les caméras ont enregistré tout cela. Oui, les bureaux de vote en Russie sont équipés de webcams, mais Moscou a durci cette année les conditions d'accès aux images. Et puis si on veut tricher tranquille, eh ben, il suffit, comme vous le voyez là, d'obturer la caméra.
Oh là là.
Et le tour est joué.
Il n'y avait pas d'observateurs internationaux ?
Non, Moscou leur a fermé la porte, cette fois en limitant à 60 le nombre d'étrangers autorisés à surveiller le scrutin pour des raisons sanitaires, paraît-il. L'OSCE, l'Organisation de Sécurité et de Coopération en Europe, a répondu que ce n'était pas sérieux et n'a envoyé personne. Alors si, il y avait tout de même au moins un observateur international, c'est Thierry Mariani, l'eurodéputé du Rassemblement National, venu à Saint-Pétersbourg à titre personnel, a-t-il dit, et lui a trouvé que les choses s'étaient pas mal passées. Je le cite, il y a partout les caméras, ce qu'on ne voit pas en France, et en Russie au moins, il y a des campagnes publiques pour appeler au vote. Fin de citation, comme quoi le bourrage des urnes se conjugue très bien avec le bourrage de crâne.
À quoi rime une telle mascarade ?
À donner l'illusion de la démocratie, à faire comme si, mais il serait temps que les gouvernements étrangers, les grands médias, arrêtent de parler d'élections qui n'en sont pas et regardent la Russie pour ce qu'elle est, une dictature.
Christiane Taubira, votre réaction ? À ce qui vient de se passer, à ces images surréalistes.
Alors, très spontanément, si je n'étais pas sur le service public, la perplexité qui m'habite m'aurait conduite à m'interroger sur vos sources. C'est terrifiant, c'est juste terrifiant. Non, non, mais je ne mets pas en doute, mais c'est pour ça que je vous dis que si je n'étais pas sur
le
service public, voilà.
Du travail de Patrick, qui évidemment vérifie que c'est
incontestablement.
Et le travail surtout, je tiens à le citer à nouveau, de Benoît Vitkim, très valeureux correspondant du Monde à Moscou, qu'on peut lire régulièrement dans ses pages, qui fait un travail formidable auprès notamment de ce qui reste d'opposants à Vladimir Poutine en Russie.
Moi, je trouve que alors, c'est un pays où il y a quand même encore des personnes qui osent manifester. Donc, on doit prendre la mesure de ce que ça représente lorsqu'on voit quelques images de manifestants. D'une part, d'autre part, ça nous interroge évidemment sur la nécessité d'une communauté internationale. Comment est-ce possible aujourd'hui que des millions de citoyens dans un pays qui est reconnu par la communauté internationale, qui siège à l'ONU, qui est en plus membre du Conseil de sécurité, qui a un droit de veto, qui a un pouvoir de veto, comment se fait-il qu'on abandonne des millions de citoyens à un tel déni de démocratie ? C'est quand même, ça nous renvoie à nous-mêmes aussi. Dans quel monde vivons-nous et que consentons-nous aujourd'hui dans la gouvernance de ce monde ?
La Russie est une dictature. Il faut dire ce mot ? Ou il faut continuer à la considérer comme une démocratie ?
C'est-à-dire que si on veut faire du purisme sémantique, ça n'est pas une dictature dans la mesure où il y a cette mascarade justement d'élections, c'est-à-dire qu'il y a des processus électoraux d'une part, il y a des échéances, il y a soi-disant une presse, et parfois aussi de la presse qui prend des risques, qui court de vrais risques. Donc, du point de vue strictement sémantique, ça n'est pas une dictature, mais c'est incontestablement un régime extrêmement autoritaire, incontestablement.
Un régime autoritaire et un pouvoir très masculin, où le virilisme de Vladimir Poutine semble régner en maître. Une image aussi macho au sommet de l'État, forcément, Christiane Taubira, ça vous choque, et pas seulement en Russie.
D'abord, c'est le signe d'une vraie décadence, pardon. Moi, je me souviens de quelques images de torse bien bombé. Je ne sais pas s'il était déjà président ou premier ministre, parce qu'il nous a fait quand même le numéro pendant quelques temps. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on a cette obsession de la démonstration de la puissance musculaire et de la puissance de la force, et de la force avec les moyens de l'État, manifestement, il y a un problème. Il y a incontestablement un problème. Ensuite, il y a une source d'inquiétude pour la société, une source d'inquiétude pour toute la société, pas seulement pour les femmes. Évidemment, prioritairement pour les femmes. Mais dans une société, on ne s'épanouit pas si on est contraint à se figer dans un rôle de domination, d'autorité, y compris à l'intérieur de son domicile. Quel sens ça a d'être autoritaire vis-à-vis de son épouse ? Quel sens ça peut avoir ? Est-ce que ce n'est pas tellement mieux d'avoir une relation de dialogue, d'échange, de complicité ? Donc, je ne crois pas que l'autoritarisme, le virilisme, le patriarcat produisent du bonheur.
Les femmes sont au cœur de ces morceaux de vie comme Caro Cassé. Vous avez voulu les raconter, leur rendre hommage. Depuis le début de l'épidémie du Covid, les femmes sont en première ligne. Elles ont même fait tenir la société. Vous l'avez rappelé à plusieurs reprises. Ça fait maintenant un an et demi que nous sommes dans cette situation. On a été assez reconnaissants avec toutes ces femmes-là.
Incontestablement, non. Je pense qu'il faut demander aux soignantes, y compris les hommes d'ailleurs. Il faut demander aux caissières, il faut demander aux femmes de ménage, il faut demander à toutes ces femmes qui ont continué à travailler, qui nous ont permis, même lorsque nous étions confinés, de continuer à vivre. Il faut demander aussi à des hommes qui ont assuré le fonctionnement de la société. Je pense aux livreurs qui sont extrêmement exposés à la précarité. Je pense aux personnes qui ont nettoyé les ordures, que nous continuons à produire. Donc voilà, il y a ces personnes qui ont montré, dont on a vu, qui sont les piliers de la société depuis très longtemps. Mais là, c'était l'évidence, personne ne pouvait la nier, mais on ne peut pas dire que la société ait progressé en termes de reconnaissance de ses rôles essentiels, en termes de décisions politiques pour valoriser ces fonctions-là.
Depuis mercredi dernier, les personnels de santé doivent avoir reçu au moins une dose de vaccin pour continuer à exercer. Pour certaines femmes, la situation devient difficile, comme cette aide hospitalière rencontrée par France 3.
Avec d'autres collègues récalcitrants face à la vaccination obligatoire, Mélanie est convoquée par sa direction. Elle ressort une lettre à la main.
Voilà, je suis suspendue.
Une suspension de salaire pour cette mère de 4 enfants et peut-être la fin de 25 années aux hôpitaux de Paris.
Je trouve ça effectivement un peu brutal et
Je vous dis, c'est un peu comme une rupture, hein. Une rupture amoureuse. Parce que quand on s'investit à l'hôpital, on le fait par cœur. Donc le cœur est un peu brisé.
Cette mesure de suspension, elle touche autant les hommes que les femmes, les femmes que les hommes. Mais est-ce qu'il aurait fallu essayer de convaincre beaucoup plus de l'importance de la vaccination plutôt que d'imposer ce type de sanctions ?
Alors, nous sommes dans une situation extrêmement difficile. Et il est aisé, personnellement, je ne dispose pas des éléments qui me permettraient de dire si les décisions du gouvernement sont justes ou non. Ce qui est évident, cependant, c'est une incapacité de ce gouvernement à expliquer, à montrer les enjeux, à indiquer les options. Il y a des décisions difficiles à prendre. Et je suis portée à penser que les décisions qui ont été prises sont les meilleures dans l'état de connaissance dont disposait le gouvernement, avec l'accompagnement des scientifiques, des savants qui se sont trouvés à ses côtés. Je pense qu'il faut arriver à expliquer aux gens qu'il y a des moments où on est obligé de suspendre les libertés, qu'il y a des moments où on est obligé de contraindre, qu'il y a des moments où on est obligé... Mais il faut donner des perspectives aux gens. Il n'empêche qu'il y a... Nous avons besoin, dans une situation comme celle-ci, nous avons besoin de faire confiance. Nous avons besoin de faire confiance à nos dirigeants, nous avons besoin de faire confiance à nos gouvernants. Et nous avons besoin d'être sûrs que les décisions qu'ils prennent sont les meilleures pour nous. Pas par facilité pour eux, mais que ce sont les meilleures pour nous. Donc moi, j'observe que dans la majorité de la société, les Français ont fait le choix. De se faire vacciner. Ils ont fait le choix de considérer que l'argument qui consiste à se faire vacciner pour protéger les autres est un argument tout à fait audible, tout à fait recevable et tout à fait honorable. C'est donc la réaction de la majorité de la société.
Et plus encore des soignants, puisque celle que la personne qu'on a vue est ultra
oui,
minoritaire.
Les
soignants sont vaccinés
des,
à 95%,
des soignants, voilà.
Au-delà de la population générale.
Renoncer à des libertés au nom du bien collectif, c'est peut-être ce à quoi on va devoir se résoudre un peu plus longtemps encore, avec la prolongation à l'étude du pass sanitaire au-delà du 15 novembre prochain. Vous qui avez toujours défendu les libertés, est-ce qu'on est en train de nous habituer à ne pas être totalement libre de nouveaux mouvements, même s'il fallait trouver des moyens pour éviter une nouvelle vague épidémique ?
Alors, la question du pass sanitaire, effectivement, limite la mobilité, mais ça ne me paraît pas la question le sujet le plus important. L'argument selon lequel le pass sanitaire permet, en sécurité, de recommencer à avoir de la vie sociale, me paraît un argument parfaitement recevable. Parfaitement recevable. La question, c'est, dans la société où nous vivons, qu'est-ce que cela signifie qu'un document aussi intime, avec des informations aussi personnelles, deviennent presque un document public, puisqu'il est contrôlé dans des lieux par des personnes qui ne sont pas assermentées, etc. Donc ça, c'est vraiment nécessité fait loi. C'est vraiment nécessité fait loi. Mais on ne peut pas faire comme si c'était banal. On ne peut pas faire comme si c'était banal. Je pense que, pour ma part, presque égoïstement à la limite, mais je suis ravie de pouvoir recommencer à aller au cinéma, au théâtre, vivement que l'opéra rouvre, au restaurant, et de retrouver des personnes tranquilles un peu dans leur tête, c'est-à-dire des personnes détendues. Ça semble une contrainte qui conditionne notre actuelle vie sociale. Maintenant, ça n'est pas ordinaire. Ça n'est pas ordinaire de présenter un document médical dans tous les lieux publics, document médical contrôlé par des personnes qui ne sont pas des personnes assermentées, qui ne sont pas des personnes qui ont une qualité particulière supérieure aux autres citoyens. Donc voilà, c'est pas pour dire, ça n'est pas un argument pour dire qu'il faut cesser de le faire. Il faut bien que nous... Moi, ce que je déplore vraiment, parce que je répète, je ne sais pas quelles auraient été de meilleures décisions. Ce que je déplore, c'est qu'on n'ait pas saisi ces deux années pour grandir ensemble. Qu'on n'ait pas saisi ces deux années pour vraiment renouveler notre démocratie, pour ouvrir des espaces, pour que la parole citoyenne remonte, pour que les doutes soient considérés comme légitimes, méritant des réponses, même si les réponses peuvent ne pas être satisfaisantes, mais méritant des réponses, qu'on n'ait pas considéré qu'il y a de l'intelligence dans la société, qu'il y a de l'énergie dans la société, qu'il y a des capacités d'initiative dans la société, et que ensemble nous devons prendre en charge ce moment social et collectif difficile. Vous savez, il y a des scientifiques qui ont expliqué que c'était plus un problème lié à, en tout cas, que la pandémie n'est pas au sens strict, c'était dans The Lancet. C'est un travail qui a été décortiqué par Barbara Stiegler, par exemple. Et elle explique comment ces analyses scientifiques expliquaient que ça n'est pas une pandémie au sens strict, parce qu'en fait, c'est une maladie qui fragilise les personnes déjà vulnérables dans nos sociétés. C'est-à-dire que c'est une maladie qui montre, comme un effet de loupe, les inégalités, les vulnérabilités, les fragilités qui ne sont pas prises en considération, qui ne sont pas prises en compte. Et ça, on doit le prendre en considération, sinon on va en sortir avec une société encore plus fragmentée, plus fracturée, parce que les vulnérables seront devenus encore plus vulnérables et ceux qui auront affronté ce moment difficile se seront renforcés.
Les femmes, par exemple, victimes de violences conjugales encore plus importantes pendant le confinement. Vous l'évoquez, ces quotidiens de femmes qui vivent dans la crainte et la menace des coups. Maya, une jeune femme qui veut quitter son compagnon violent. Et cette scène, quand les gestes remplacent le dialogue, je lui ai foutu un nion, il m'a bloqué le bras, puis il a tordu, je me suis dégagée, je lui ai balancé une torgnole, il m'a lancé un coup de poing, j'ai esquivé, je l'ai griffé, puis avec mon pouce et mon index gauche, je lui ai torsadé la peau du dos, il m'a enfoncé deux doigts dans les côtes, ensuite il est sorti. Cette violence brute que vous décrivez, c'est celle dont les femmes ont encore trop peur de parler?
Elles ont peur d'en parler et lorsque la puissance politique veut accompagner et aider les femmes, souvent la puissance politique ne prend pas conscience de ça. C'est-à-dire qu'on veut lutter contre les féminicides, mais le féminicide, c'est l'aboutissement. C'est la violence fatale. Mais avant cette extrême violence, il y a de la violence, il y a des étapes de violence, il y a des affrontements. Et on ne va pas arriver au bout des féminicides si on ne prend pas cela en compte. Pourquoi les femmes restent? Pourquoi après la première gifle, elles restent? Pourquoi après le premier coup de poing, elles restent? Si on n'apporte pas, on ne les aide pas à trouver des réponses à cela, on va continuer à déplorer, mais ça va finir par devenir hypocrite de déplorer les féminicides. Il faut permettre à la femme. Donc, il y a de la brutalité avant la violence. De la brutalité au sens littéral aussi du terme. C'est-à-dire que ça vient d'un coup. Ça vient d'un coup. La première claque, elle arrive d'un coup. Et on doit s'interroger. Pourquoi les femmes supportent la première claque? Et parfois aussi, pardon, ça va choquer certaines personnes, mais c'est une réalité. Pourquoi l'homme donne la première claque? On doit aussi s'interroger. Dans une société de domination, de force, de virilité, où on exige des hommes qui soient le maître, le chef de famille, etc., toutes les frustrations qu'il encaisse ailleurs, sur le plan professionnel, dans la société, dans ses relations amicales, etc., toutes ces frustrations, elles se déversent au sein du domicile. Donc, si nous voulons protéger les femmes à l'intérieur de leur domicile, nous ne pouvons pas directement les protéger. Dans cette nouvelle, je dis, mais qui peut quelque chose pour toi à l'intérieur de chez toi? S'il y a un endroit où on ne peut rien pour toi, c'est à l'intérieur de chez toi. Donc, si nous voulons protéger les femmes à l'intérieur de chez elles, il faut faire en sorte que la société soit moins brutale, il faut faire en sorte que les femmes aient des réponses immédiates à la première torgnole, qu'elle ait une réponse, qu'elle n'ait pas à réfléchir, mais je n'ai pas d'emploi, ou mon emploi ne me permet pas d'avoir un logement. Et même si mon emploi me permet d'avoir un logement, je n'ai pas accès à un logement immédiatement. Et puis, il y a les enfants. Quelle réponse j'aurai pour les enfants? Est-ce que les enfants, est-ce que je serai obligée de les changer d'école, etc. Si on n'a pas ces réponses-là, et l'homme lui-même, parfois il y a de l'alcoolisme, parfois il y a voilà, une série de frustrations, est-ce qu'on n'a pas, on doit apporter des réponses à tout cela? Sinon, je répète, c'est hypocritement qu'on va continuer à déplorer les féminicides.
Le gouvernement a essayé de mettre en place des mesures, notamment sur le dépôt de plainte, mais vous dites dans votre livre que le fait de porter plainte, c'est de s'exposer, de devenir plus vulnérable.
Alors, ce n'est pas seulement dans le livre, c'est dans la réalité. Moi-même, j'ai été au gouvernement et j'assume. Nous avons lancé une campagne très vite de protection des femmes. Nous avons travaillé, alors moi, ministre de la Justice, avec le ministre de l'Intérieur notamment. Et à l'époque, je lui avais demandé de veiller à ce que ce soit des femmes qui soient à l'accueil pour recueillir les plaintes. Vis-à-vis des parquets, j'avais diffusé une circulaire demandant que systématiquement, toutes les plaintes soient traitées. Mais déjà, au niveau du recueil de plaintes, qu'on n'ait plus les mains courantes, parce que 80% pratiquement des plaintes faisaient l'objet d'une main courante, c'est-à-dire que c'est rédigé sur un cahier, c'est tout. Donc, que systématiquement, toute plainte soit communiquée au parquet. J'avais impliqué l'École nationale de la magistrature pour former les magistrats, les policiers, les gendarmes, le personnel social, les avocats. Donc, voilà, il y a toute une série de choses à faire. Mais j'ai fait aussi autre chose. Quand je dis « j'ai fait », c'est plus l'envie de dire le gouvernement peut faire aussi autre chose, c'est-à-dire notamment apporter des réponses d'hébergement. Lorsqu'une femme vient dire, enfin, je veux dire qu'on n'a même pas besoin de statistiques, pour savoir que si un homme sait que la femme est allée se plaindre à la police, si elle rentre à la maison, elle va se ramasser 10 fois plus de torgnoles que celle qui lui a envoyé porter plainte. Donc voilà, il nous faut apporter des réponses. Il faut apporter des réponses aux hommes aussi. Je répète, hein, ça peut paraître choquant, mais il faut apporter des réponses aux hommes et les faire en sorte qu'ils sortent de ce cycle de violence.
Certains hommes qui pensent que la société patriarcale, le patriarcat que vous dénonciez il y a quelques secondes, était fini.
L'avortement, c'est une conquête, l'interruption volontaire de grossesse, sur laquelle je n'ai jamais eu l'intention de revenir. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire une femme est mariée, elle attend un enfant. Elle attend un enfant, ou voilà. Mmh. Et le mari veut, ou le compagnon veut le garder. Elle ne veut pas. Eh bien, elle a le dernier mot. Elle a le dernier mot. Ça veut dire que le patriarcat n'existe plus.
Parce qu'une femme a le dernier mot ?
Ah ben, je suis sciée. Ah ben, c'est son corps, quand même. C'est son corps. Bon, alors, non, le patriarcat, on ne l'a pas encore piétiné, on ne l'a pas encore éradiqué, et on va le faire, d'ailleurs. Mais, non, c'est un sujet sérieux.
C'est ça que dit Phil Gelcroze.
Il n'a pas vraiment reculé, mais c'est vrai que on lui fait des entailles. On lui fait des entailles sérieuses. Ça, c'est absolument indiscutable. Et non seulement on lui fait, c'est-à-dire que dans la société, le progrès, etc., mais les nouvelles générations aussi font des entailles sérieuses au patriarcat. Mais voyez, prenez sur un siècle, par exemple, le nombre de débats sur le corps des femmes. Et puis essayons d'en trouver sur les hommes. La contraception, les hommes, voilà, il y a peut-être des choses à faire, hein. Donc ça, c'est une réalité. Et pour moi, c'est une réalité qui...
La contraception, la fertilité, tout ça, ne sont pas des sujets qui concernent les hommes.
Voilà, on ne pose jamais la question du point de vue de l'homme. Donc c'est la femme qui doit assumer, même lorsque c'est l'homme qui est infertile, c'est la femme qui doit assumer que le couple n'ait pas d'enfant. Donc voilà, et puis les questions sur le corps des femmes, c'est à longueur de temps, y compris leur façon de s'habiller, c'est à longueur de temps. Donc non, le patriarcat, il n'est pas encore à terre. On les mettra à terre et vous nous direz merci. Parce que vous allez découvrir l'ineffable bonheur de l'égalité. L'ineffable bonheur d'avoir des femmes qui peuvent déployer tout leur talent, toute leur capacité, toute leur créativité, toute leur inventivité, y compris au lit d'ailleurs, y compris au lit. Les femmes qui vont se sentir égales de leur compagnon ou de leur mari et qui, voilà, qui auront le souci de leur apporter, y compris la jouissance du corps, vous allez voir que vous allez nous dire merci.
Je ne pense pas qu'un Finkielkraut dise merci.
Bah, c'est son affaire, il perd tout.
Mais vous êtes senti empêché dans votre déploiement? Non, mais dans votre déploiement général, justement, par un patriarcat qui aurait pu vous empêcher, vous limiter.
Chère Anne-Elisabeth, ça n'est pas un confessionnal ici.
C'est une question. Vous y répondez si vous le souhaitez.
Non, alors je me sens empêchée. Je peux aligner les situations où enfant, adolescente, adulte, je me suis sentie empêchée. Oui, j'ai un tempérament, j'ai un rapport à la vie, j'ai un rapport aux autres. Tout cela fait que j'ai dépassé ces empêchements-là. Mais incontestablement, oui.
C'est dingue. Il doit être 19h passé de 15 minutes, on n'a pas encore parlé de Zemmour et de tous les thèmes qu'il développe.
Vous voyez bien qu'on
je me demande sur quel média on se trouve. En tout cas, je vais quand même poser une question. Il a démarré vendredi la grande tournée de promotion de son bouquin à Toulon. On l'a couvert ici. Et il continue en revanche de tenir une certaine ambiguïté sur la date ou sur la réalité de sa candidature. En revanche, nulle ambiguïté sur les raisons que peut avoir cette lectrice que vous allez entendre d'Éric Zemmour, qui était à Toulon pour avoir une belle dédicace, les raisons non seulement d'acheter le livre, mais d'être totalement convaincue par son propos.
Pourquoi vous êtes d'accord avec Éric Zemmour ?
L'immigration ? Moi, je le dis honnêtement, hein, j'ai mis mes enfants dans une école privée parce que j'ai eu le grand où était l'école publique, c'était une horreur. Dans l'école privée, il n'y a pas toutes ces racailles, voilà, je vous le dis de suite. Moi, quand je vois des migrants qui arrivent et qui touchent 900 euros alors que nous avons nos personnes âgées qui ont à peine une pension de retraite de 400 euros, quand on voit l'état des EHPAD et tout ça, non, je ne suis pas d'accord.
Je ne dis pas ça pour sourire de cette dame. Elles sont nombreuses à penser comme Éric Zemmour. Il est en train de marquer des points dans la bataille des idées, si j'ose m'exprimer ainsi.
S'il marque des points, c'est parce qu'il y a un renoncement en face, c'est tout. Ce qu'on vient d'entendre, ce sont des propos, c'est un état d'esprit, ce ne sont pas des faits. Donc, nous sommes dans une société où les gens lisent, discutent, débattent. C'est une des marques même du peuple français. C'est aimer fouiller les choses. Le premier sous la revenue se prend pour un grand philosophe dans ce pays. C'est-à-dire que voilà, nous sommes dans un pays où les gens aiment comprendre les choses, les décortiquer, discuter, chercher les paradoxes, etc. On est en train de renoncer à tout ça. C'est surtout ça. C'est surtout ça. C'est-à-dire que ce qui tient lieu de penser, ce sont des éructations, ce sont des affirmations péremptoires non vérifiées. C'est retrouvons nos esprits, c'est tout. Alors, il y a des gens qui ne voudront pas retrouver leurs esprits. C'est leur droit, c'est leur liberté. Mais nous autres, qui ne sommes pas obligés de nous enfermer dans le commentaire des éructations d'un individu, nous ne sommes pas obligés de... Voilà, moi, je n'ai pas envie de passer une seconde de ma vie à commenter les écrits de cette personne.
On l'entend trop.
Et je... Ah oui, incontestablement. Alors, ceci étant, c'est pas... Alors, on l'entend trop sur les médias, mais bon, ça n'est pas exclusivement la faute des médias. C'est aussi la faute de celles et ceux qui n'ont plus de parole originale, qui n'ont plus une parole singulière, qui n'ont plus une parole enracinée dans une vision de la société, de la vie, du monde, qui ne sont plus en capacité de venir... de nous expliquer les difficultés aujourd'hui autrement par le fait que les étrangers perçoivent tant d'euros. Et voilà, il n'y a plus ça. Donc, ça tient lieu d'analyse de la société, de la complexité du monde, des difficultés auxquelles nous sommes collectivement confrontés. Nous appartenons au même monde, au même monde. Et ce monde qui est sur le point de s'effondrer, mais je ne crois pas à la théorie de l'effondrement, mais qui est ce monde qui est fragilisé, notamment par la pression que nous, l'espèce humaine, nous exerçons sur ce monde-là, c'est notre monde commun. C'est notre monde commun. Et aujourd'hui, nous avons un monde où nous pouvons penser des solidarités différemment, où nous pouvons penser ensemble des innovations. C'est aussi ça, les potentialités de ce monde. Et c'est cette mondialité dont parlait Édouard Glissant, par exemple. Oui, maintenant, le monde est interconnecté. Mais on peut utiliser cette interconnexion pour faire autre chose que aller chercher encore plus de pétrole dans le fond des océans, pour faire autre chose que des safaris dans des pays qui ont besoin de devises étrangères, pour faire autre chose qu'abîmer la planète. Donc on peut utiliser le fait que nous appartenons à ce même monde pour développer les en commun, par exemple. Qu'est-ce que nous avons en commun pour développer les biens communs aussi, c'est-à-dire l'eau, la protection du capital d'eau sur la totalité de la planète, comment nous en prenons soin, sur les forêts. Alors, il y a tout ça qui est possible. Mais on satisfait les gens ont forcément des frustrations. Et on satisfait cette frustration en leur disant, regardez celui-là, déjà, il ne vous ressemble pas beaucoup, il est quand même ici, et en plus, il touche des sous. Ça peut être complètement faux, mais peu importe. Ça sert d'exutoire aux gens. Mais moi, je pense que la beauté de la politique, justement, c'est d'amener les gens à être plus grands que ce qu'ils sont. C'est d'aider les gens à rester des gens bien. Au fond, des gens, il y a du bien. Moi, je connais les milieux pauvres. Chez les pauvres, il y a de la générosité, il y a de l'attention aux autres, il y a de la joie de vivre. Alors, pas tous les pauvres. Mais quand les gens sont dans la difficulté matérielle et qu'ils en veulent aux autres, on peut les aider à retrouver ce qu'ils ont de beau en eux, plutôt que de les aider à fouiller cette rancœur, cette mesquinerie, cet égoïsme-là. On peut aller chercher chez la même personne autre chose. Mais évidemment, il faut expliquer le monde différemment.
On continue à expliquer le monde et à évoquer l'actualité. C'est la story de Mohamed Bouafsi.
Bonsoir à toutes et à tous. Ce matin,
Emmanuel Macron recevait les Harkis et leurs descendants 59 ans après la fin de la guerre d'Algérie.
Au lendemain des accords d'Évian et de la fin de la guerre d'Algérie, le 18 mars 1962, près de 80 000 Harkis arrivent en France. On les appelle les incasables, les irrécupérables, tous parqués dans 6 camps de reclassement, d'internement à Bias ou encore à Saint-Maurice-l'Ardoise. Certains sont même placés dans des prisons désaffectées.
L'ancienne prison militaire de la rue de la Mitrie à Nantes, un bâtiment désaffecté, devenu le refuge de 34 familles de harkis. Des familles dont les jeunes enfants n'auront pas connu à leurs premières années le souvenir du brillant soleil d'Afrique du Nord.
Pendant près de 15 ans, ces milliers de franco-algériens vont vivre entourés de barbelés. Des bébés vont mourir faute de soins. 1500 enfants ne seront jamais scolarisés. En 2001, la France commence son travail de mémoire.
Les massacres commis en 1962
laisseront pour toujours l'empreinte irréparable de la barbarie. Ils doivent être reconnus.
À tous les harkis envers lesquels la France a une dette, je dis, au nom de la République, que la France leur doit réparation.
Je reconnais les responsabilités des gouvernements français dans l'abandon des harkis, des massacres, de ceux restés en Algérie et des conditions d'accueil inhumaines des familles transférées dans les camps en France.
Il est 11h30 ce matin, à l'Élysée, le président de la République Emmanuel Macron prend la parole solennellement.
Aux combattants abandonnés, à leurs familles qui ont subi les camps, la prison, le déni, je demande pardon. Nous n'oublierons pas. Depuis, la République s'est ressaisie. Elle a reconnu les sacrifices consentis et les souffrances infligées.
Depuis les accords d'Évian, les harkis et leurs descendants attendaient ce pardon. Ceux qui ont vécu la guerre d'Algérie, qui y ont pris part, sont toujours hantés par les fantômes du passé.
Quand j'avais été arrêté, j'avais les mains derrière le dos. Ils m'ont amené dans une salle de torture. C'était un cabanon que la France leur avait laissé. C'était gentil, la France. Hein. Et dans cette salle, quand je suis arrivé, il y avait au moins une cinquantaine de harkis. Il y avait du sang qui gissait le sol, du sang partout.
60 ans après leur arrivée en France, l'émotion, la douleur est toujours palpable. Les filles et fils de harkis veulent désormais se reconstruire.
J'ai été bouleversée. C'est pour moi un jour historique, parce que c'est la première fois qu'un président de la République demande pardon pour le mal qui a été fait à la communauté harkie. Et c'est bouleversant parce que la force de ces mots sont à la hauteur de la souffrance de cette communauté. Je pense à tous les harkis qui sont décédés sans avoir pu entendre ces mots d'un président de la République qui reconnaît leur souffrance, parce que c'est ça qu'on attend depuis des années.
Une commission nationale va désormais superviser le processus de recueil des témoignages et de réparation. L'État français va indemniser les familles de harkis. Emmanuel Macron a annoncé la création d'une loi de reconnaissance avant la fin de l'année afin d'inscrire dans le marbre la réparation et la douleur des harkis. Christiane Taubira, près de 60 ans pour reconnaître la responsabilité de l'État français dans la gestion calamiteuse des harkis. Emmanuel Macron a-t-il bien fait de demander pardon ce matin ?
En tout cas, les personnes intéressées avaient besoin de ces paroles, donc elles sont bienvenues, forcément. Emmanuel Macron est le quatrième président à poser des mots. Alors les siens sont allés plus loin, mais à poser des mots sur ces tragédies. C'est une tragédie des guerres coloniales, malheureusement. On a connu aussi ces situations-là en Asie, là, ce qu'on appelait l'Indochine, le Vietnam. Voilà, ce sont des sociétés qui sont déchirées parce qu'il y a des personnes, des ressortissants de ces sociétés qui parfois ne veulent pas la séparation, ne veulent pas la rupture et rejoignent l'armée française. C'est ce qui s'est passé pour les harkis, ça s'est passé aussi dans certains pays d'Asie. Donc c'est une tragédie, il faut la reconnaître, et en tout état de cause, dès qu'il y a maltraitance d'État, sur le principe même, il faut qu'une parole d'État vienne se poser sur ces maltraitances-là, sur ces drames-là. Après, selon les drames et selon l'attente surtout des personnes, des citoyennes et des citoyens, parce qu'on continue à les appeler harkis, mais enfin bon, ce sont des Françaises et des Français. Donc selon leur attente, selon leur demande, je pense que le dialogue doit s'instaurer. Donc cette demande de pardon, manifestement, elle était nécessaire, donc elle est bienvenue. Cette loi qui, semble-t-il, sera déposée au Parlement et adoptée permettra la réparation. Cette réparation, elle est due, elle est aussi bienvenue. Donc il a eu raison de le faire. J'ai entendu quelques insatisfactions, mais ce sont toujours des situations subjectives, affectives, très, très délicates.
Avec l'importance de la réparation financière aussi, ça c'est un volet qui est souvent oublié, mais qui est essentiel.
Alors c'est un volet qui est important. La question de la réparation, vous savez que c'est une question qui est posée et qui est sulfureuse sur la question de la traite négrière, de l'esclavage, par exemple. Sur ce sujet-là, on ne veut même pas entendre parler, on ne veut même pas entendre le mot réparation. Mmh. Alors que la réparation est un concept, est un terme qui contient mille et une choses. Et puis qu'il y a incontestablement des réparations sur la traite négrière et l'esclavage. On dit qu'il n'y a plus de survivants. S'il y a des descendants pour commencer, mais surtout, on a pris des mesures après l'abolition de la traite et de l'esclavage, on a pris des mesures qui continuent aujourd'hui à produire des inégalités et des empêchements, des interdits. Ça produit ça aujourd'hui encore, sans compter le racisme, c'est-à-dire toute une série de représentations, donc des choses sur lesquelles il faut travailler. Là, nous sommes dans une autre situation. Il y a des survivants, des personnes qui portent encore la mémoire vive d'avoir vécu dans ces camps, de savoir que des enfants y sont morts, que des personnes âgées aussi probablement. Donc, voilà, il y a cette demande. Et puis, il y a eu des empêchements aussi, c'est-à-dire que le fait d'être dans des camps, ça ne permet pas une trajectoire scolaire normale, ça ne permet pas que toutes les capacités, tous les talents, toutes les...
Ça dépend, hein.
Des enfants, voilà, aient la chance, que les enfants aient la chance de les déployer. Donc, voilà, il y a des réparations matérielles, il y a des réparations financières, il y a des gens qui poussent les hauts cris dès qu'on parle d'argent, mais l'argent, ce n'est pas l'argent en soi. C'est qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on améliore grâce à cela.
Merci beaucoup, Mme Bouessi. À tout à l'heure pour la Story Média. Émilie, on est le 20 septembre, mais on s'apprête déjà à vivre un deuxième tour.
Oui, un deuxième tour surprise pour ce qui est de la primaire des Verts. Les sondages annonçaient un écart abyssal entre Yannick Jadot et les autres. Finalement, c'est un collet serré entre Yannick Jadot, 27,7% des voix. Et c'est donc elle, la surprise, Sandrine Rousseau, 25,14% des voix. Enfin, une surprise, pas pour elle.
Et ce résultat n'est finalement une surprise que pour les personnes qui n'ont pas saisi, qui n'ont pas voulu voir les évolutions de la société.
Alors qu'est-ce qui va départager les deux candidats au second tour? Louis Amar a posé la question à Sandrine Rousseau et sa réponse est sans surprise cette fois radicale.
Moi je suis une écologiste de gauche, une écologiste radicale et une écologiste sociale.
Beaucoup moins radical. Au contraire, Yannick Jadot a voulu montrer tout au long de cette campagne qu'il était modéré, nuancé, heureux et fier.
Je suis très fier, très heureux ce soir, très heureux de la qualité de cette primaire. Et pour ma part, je suis extrêmement heureux de la tenue de cette primaire. On a eu trois débats qui, je crois, ont été absolument exemplaires.
Je n'ai pas de doute sur le fait que nous engagerons un débat de responsabilité. Je suis très content d'être au second tour et très content de l'image qu'on a donnée.
Donc première chose qu'il a tenu à faire en tant qu'homme heureux et fier, c'est de remercier ceux qui ont participé, des remerciements qu'on a sentis pas totalement innocents.
Je veux remercier Eric, comme Delphine, comme Jean-Marc, ont participé avec force, ont participé, je crois, à faire de l'écologie, une écologie de gouvernement, une écologie qui est prête à assumer ses responsabilités.
Donc il remercie d'abord les quatre perdants et plus tard il a quand même eu un mot pour Sandrine Rousseau rappelant ô combien elle avait été attaquée durant cette campagne. D'ailleurs quand on lui a reparlé de ses différences avec Sandrine Rousseau, il a réitéré ses remerciements à peine orientés.
Je ne vais pas commencer à déconstruire ma concurrente. Ce n'est pas une adversaire pour moi Sandrine Rousseau. C'est une concurrente dans une primaire qui est une primaire de grande qualité. Il faudra tout le monde pour gagner en avril 2022. Il faudra Delphine, il faudra Eric, il faudra tout le monde.
Voilà, donc pour Yannick Jadot, tout le monde, c'est Delphine Bateau et Éric Piolle. S'ils n'ont pas entendu l'appel, nous, on l'a entendu, parce que Yannick Jadot veut rassembler pour affronter non pas Sandrine Rousseau, mais Emmanuel Macron.
On ne peut pas s'offrir un quinquennat de plus d'Emmanuel Macron. Vous vous souvenez d'Emmanuel Macron, « Make the planet great again », c'est le même qui sacrifie plus de 113 000 oiseaux au lobby de la cruauté et qui n'avait fait quasiment qu'une seule promesse en matière d'écologie, la fin du glyphosate, et nous savons combien, y compris dans ce quinquennat, nous avons augmenté l'utilisation du glyphosate.
Alors l'Élysée, c'est aussi ce que vise Sandrine Rousseau qui se sent portée.
C'est un moment intense émotionnellement, Madame Rousseau.
C'est un moment très heureux et c'est un moment qui donne énormément d'énergie pour la suite.
Vous étiez préparée à ce moment ?
Absolument, absolument. Et je pense que ça, depuis maintenant plusieurs semaines et voire depuis plusieurs mois, on pouvait sentir cette vague qui montait.
Ils se voient tous les deux à l'Élysée. Christiane Taubira, vous les voyez également ?
Depuis quand je vous ai dit que j'étais voyante.
Non, mais est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la gauche qui vient de se passer chez les écologistes, avec cet électorat, ce corps électoral plus fort que ce qu'on attendait, une participation, etc. Mais une division en, quasiment en quatre quarts de cette mouvance-là.
Ça signifie quelque chose incontestablement, et je crois que vous êtes mieux armé que...
Ah, vous êtes pas
pour
mal quand même.
Analyser, oui, je m'autorise, mais ça ne veut pas dire que mon analyse soit là. Alors, en tout état de cause, c'est un joli processus démocratique. C'est vraiment un joli processus démocratique. Et le service public a bien joué son rôle. On a entendu presque quatre lignes différentes. Donc, moi, je trouve ça tout à fait intéressant. C'est structuré. Après, on adhère à l'une ou à l'autre. C'est structuré et c'est peut-être pas très étonnant que ce soit partagé de cette façon-là, parce que ce sont des lignes parfaitement identifiées. Voilà, moi, je trouve que pour la démocratie, c'est très, très bien. Mais je n'irai pas plus loin parce que je ne vais pas me mêler des primaires écologistes. Mmh. Bon, vous savez ce que je pense du fait qu'il y ait plusieurs candidatures à gauche.
Auxquelles vous ne voulez pas rajouter la vôtre Définitivement non.
On peut redire ça. Je trouve très sérieusement, je pense que vraiment la France et le monde, pas seulement, mais la France et le monde, ont vraiment besoin de politiques publiques de gauche, ont vraiment besoin d'une sensibilité aux grandes injustices, ont vraiment besoin aussi d'une capacité à inventer. Il nous faut changer d'époque. Il nous faut changer d'époque.
Donc,
et ça,
c'est
pas être du conservatisme.
Si c'est passé chez les écolos, il aurait fallu que ça se passe dans toute la gauche, voilà.
Et qu'il y ait un seul candidat.
C'est ça.
Ça aurait pu se faire. Alors, on peut toujours faire de la politique fiction. Ça aurait pu se faire. Moi, je pense, pour dire les choses un peu sommairement, je pense qu'il y a 18 mois, quelques initiatives auraient dû être prises pour voir comment les différentes sensibilités de gauche sont en capacité de surmonter des divergences, il y en a, des perceptions différentes, il y en a, des intentions différentes, il y en a.
Ah bah, il y a eu des
mais
initiatives.
Mais ce n'est pas insurmontable. Oui, yes. Avec quelle autorité morale et politique, avec quelle perspective, bon voilà, c'est ça. Il n'empêche que... Quelles que soient les initiatives, oui, il y en a eu, notamment, voilà. Mais quel que soit ce qui a été fait, le résultat est qu'aujourd'hui, nous avons sur le plateau plusieurs candidatures. Et que, voilà, je pense que c'est dommage parce que ça ne permet pas une parole suffisamment singulière et forte pour qu'on arrive à entraîner, par une dynamique collective, qu'on arrive à entraîner toutes ces énergies, toutes ces intelligences, toutes ces créativités qui nous permettront de changer de monde. Il nous faut changer de monde. Et ce n'est pas un slogan, hein. Ce n'est pas changer la vie. C'est que nous sommes à un moment de bascule. Il y a des équilibres à remettre en cause. Il y a des règles à remettre en cause. Il y a des règles à élaborer, à imposer. Il y a toute une série de choses à faire pour que la vie soit vivable. Mais bon, voilà, avec cette fragmentation... On n'en prend pas le chemin, mais ceci étant, il ne faut pas injurier les prochains mois qui viennent. Hein. Justement, on est dans un processus de clarification. Et les Verts contribuent à ces clarifications-là.
Vous restez avec nous, c'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Babette, bonsoir à toutes et à
bonsoir.
Tous.
On commence tout de suite avec les parents qui valident la cantine de leurs enfants.
Quels souvenirs en avez-vous ? Vous, à la maison de la cantine, du self, de la cantoche, je vous le disais, fini les idées reçues ce soir. Sur la base de cette étude qui nous dit qu'à la cantine, la qualité s'est améliorée, qu'elle permet l'accès à une alimentation saine, que la cantine permet un meilleur brassage social et culturel. Et franchement, c'était pas gagné d'avance, ça paraît tellement loin. Regardez ces bambins de 1987.
Je préfère rentrer chez moi de midi. Et d'abord, tous mes copains disent que la cantine, la nourriture est... pas trop bonne.
Il y a une surtension et les gens sont beaucoup énervés. Alors, ça, j'aime pas, c'est une atmosphère un peu trop lourde.
C'est sympa l'ambiance à la cantine.
Ouais, surtout quand il y a des mandarines, on lance les plures.
J'aurais aimé quand même être demi-pensionnaire quelques années. Parce que ça me permet d'avoir des contacts et de pouvoir parler.
Quand on avait des petits pots et des trucs comme ça, il y en a qui prenaient les cuillères, ils lançaient partout, on avait de l'eau dans nos assiettes.
Si ça détend les gens, ben, autant qu'ils se défoulent comme ça. Enfin, c'est un peu vexant pour les femmes de ménage, tout ça, les gens qui doivent ramasser.
Et puis honnêtement, il faisait chaud à la cantine avec ses pulls en laine des années 80. Bon, vous pensez que cette génération a grandi, que peut-être que ces petits aujourd'hui ont des enfants à leur tour à la cantine. Souvenir avec Iban Raïs et Anaïs Recouli.
C'est quoi votre pire souvenir de cantine ?
Les lentilles.
Les épinards.
Les épinards, la langue de bœuf et la purée de patates.
Et on n'avait pas envie de manger déjà la couleur marron, visqueux, là, un peu flasque, ça donnait pas envie. Et puis le goût, c'était pas un goût de lentilles en fait.
Des fois, il y a du poisson gras qui est pas très cuit. J'adore les épinards, ceux de ma maman ou de ma mamie, mais enfin, ceux de la cantine, ils sont pas bons. On dirait qu'il y a un produit chimique.
J'ai été à la cantine une année dans toute ma vie parce que justement,
J'étais pas très fan de la cantine.
La mairie de Paris. Bon.
De la maternelle au lycée, ils sont 7 millions. 7 millions de jeunes fréquentent la cantine tous les jours. Et pour beaucoup, il faut le souligner, dans les familles les plus précaires en particulier, c'est le seul repas équilibré de la journée.
Alors oui, c'est possible dans le contexte de pandémie qu'on vient de traverser pour un certain nombre de familles. Il n'y avait pas forcément une accessibilité financière et dans ce cas-là, on peut imaginer que c'est le seul repas de la journée. On essaye de rajouter aussi une attention à la valeur environnementale des plats qui y sont servis. Donc avec une incitation à servir du végétarien et aussi des produits qui viennent des circuits courts. Donc en fait, on a vraiment une qualité qui est extrêmement bonne par rapport à ce qu'on peut voir aussi dans d'autres pays européens.
Voilà de quoi redorer un peu le blason de la cantine, parce qu'en termes d'équilibre, on a tout essayé et parfois on a fait quelques détours.
Le rituel est le même 5 fois par semaine. Un bus spécialement affrété par McDonald's sillonne gratuitement les lycées de la ville en emmenant les lycéens qui le désirent manger des hamburgers.
Je trouve ça bien que McDo ait fait une navette, parce que c'est pratique pour les jeunes.
Si dans les cantines il y a des problèmes, je pense qu'il est temps effectivement d'en parler. Peut-être de reconsidérer la cantine des années 2000.
Alors, il vend bien son service, hein, monsieur McDo de Romans-sur-Isère en 96. Les McDo, la cantine, tiens, je vous laisse lancer le débat à table là en ce moment avec les enfants, essayer de les convaincre. Montrez-leur, tiens, ce qui suit aux enfants, parce que moi, j'en étais resté au regretté Carlos.
Je préfère manger à la cantine avec les copains et les copines. Et même si la viande est dure comme du caoutchouc, au moins je suis sûr de ricoler un bon coup.
Carlos, en 1972, et je suis sûr que je peux vous surprendre encore, vous étonner encore en remontant plus loin, 1956.
À Montgeron, les enfants des écoles primaires sont des enfants heureux. Plus question de cantine, ils vont déjeuner comme des grands au restaurant d'enfants. Un menu scientifiquement équilibré tient compte, en ce qui concerne le choix des boissons, de la dernière circulaire du ministre de l'Éducation nationale qui vient d'interdire dans toutes les cantines scolaires toute boisson alcoolisée pour les moins de 14 ans. La sobriété est une bonne habitude. Elle est la base même de la santé de nos enfants.
Et oui, fait du chemin. On buvait des vins dans les du à vin à la cantine dans les années 50. Toujours
coupé d'eau. Hein,
quand ils ont arrêté le vin, j'ai arrêté mes études.
Et puis le ministère de l'Éducation nationale, aujourd'hui, il s'est toujours refusé à fermer les cantines lorsque les écoles sont restées ouvertes. Des médecins qui craignent pour leur sécurité, qui sont accompagnés de gardes du corps.
Vendus, collabos, nazis, ou c'est à cause de vous, cette dictature sanitaire. Stop, disent les professionnels de santé. Aujourd'hui, on a dépassé les menaces. Certains sont obligés de s'accompagner de vigile, de garde du corps, comme le docteur Jérôme Marty que Camille Schmitt a contacté.
J'ai quelqu'un qui effectivement me suit lors de mes déplacements, qui est d'ailleurs qui tient plus du profileur que de ce qu'on imagine. C'est pas quelqu'un avec une oreillette et une, comme on le voit dans les films, mais c'est des gens qui surveillent et qui vont être capables de voir si une voiture est passée 3-4 fois, si quelqu'un d'autre surveille ou autre, ou est douteux. Quoi. On va te mettre une balle dans la tête, on sait où tu habites, on te pendra, vous allez être exécuté, il y aura un procès. Alors c'est le fameux Nuremberg 2, puisque pour ces gens, si vous voulez, la vaccination est une expérimentation, et donc en vaccinant, on fait comme les médecins nazis dans les camps de concentration, et donc il faut un deuxième Nuremberg où on serait donc jugé et exécuté.
Alors nous avons appelé plusieurs organismes de sécurité privée, c'est très nouveau, il n'y a pas non plus une razzia sur les gardes du corps pour les blouses blanches, et pour cause, ce dispositif coûte 300 euros par jour au docteur Marty, mais ce Nuremberg 2 dont parle le médecin, le docteur Jérôme Marty, chez les plus dangereux des antivax ou des antipasses sanitaires les plus fous, écoutez, regardez sur le net, on trouve ce genre de programme amateur où l'on réfléchit à ce que l'on pourrait faire aux autorités sanitaires.
Il y a eu des idées de quel supplice on va faire aux personnes qui vont vacciner et qu'on va accuser dans le futur. C'est trop facile, la guillotine. Mmh. Il y avait un supplice où, tu sais, tu mets quelqu'un au milieu du village, puis il a un bois comme ça, puis il a les mains dedans, il ne peut pas bouger.
Ah, oui.
Et tu le mets au milieu de la place du village, donc les directeurs d'hôpitaux, les directeurs d'école, ils vont rester là tout le temps. Et c'est leur prison, c'est la place publique.
Christiane Taubira, on n'accepte plus d'entendre ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, cette violence qui passe de la menace aux actes.
C'est juste intolérable. Hein. C'est juste intolérable. En plus, c'est...
Grossier.
Oui, on ramasse d'imbécilité, d'insocialité, d'antisocialité. Voilà, ça laisse en voix. La seule bonne nouvelle, c'est que moi, je crois que ces excès-là, ça dessert. Ça dessert, parce que comment ça peut rallier des personnes ont le droit de s'interroger, des personnes ont le droit d'avoir des doutes, les personnes ont le droit de dire dans le passé j'avais cette liberté là, laissez-la moi, etc. Les gens ont le droit de dire ça.
Oui, ça dessert dans l'opinion, mais ça peut entraîner des passages à l'acte.
Oui, mais
les actes violents commencent toujours par des paroles menaçantes.
Je suis bien d'accord avec vous, et ça doit tomber sous le coup de la loi. Ça, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Alors, en plus, j'ai imbécile. Mais effectivement, c'est inquiétant. Et je crois que c'est une minorité, c'est une minorité mineure. Mais ça ne veut pas dire qu'on doive les laisser sévir. Je suis bien d'accord. Là, de toute façon, il y a agression, il y a appel à menace, il y a... Bon, voilà.
C'est condamnable.
C'est passible. C'est
ça me semble tomber sous le coup de la loi.
Bien sûr. Bon. On termine, Mathieu, avec une très belle émotion.
Oui, au Festival du film de Saint-Sébastien, Marion Cotillard a reçu le prix Donostia ce week-end, qui récompense l'ensemble de son œuvre. Alors, c'est un prix qui succède au César, au Golden Globe, au BAFTA, à l'Oscar de la meilleure actrice, qu'elle a aussi reçu, bien sûr. Avec ce prix Donostia, Marion Cotillard rejoint Al Pacino, Coppola, Julia Roberts, Denzel Washington, Glenn Close, rien que ça, Jeanne Moreau, Agnès Varda pour les Françaises. Et regardez, deux étoiles qui se rencontrent sur une scène. C'est Penélope Cruz, elle-même lauréate de ce prix il y a 2 ans, qui lui a remis sa récompense.
I didn't expect that at all. I love this woman so much.
Y es un honor para mí poder entregar el premio Donostia a mi amiga Marion Cotillard, una actriz a la que quiero y admiro muchísimo.
Je voudrais remercier le festival de Saint-Sébastien de m'honorer ce soir et d'accompagner une nouvelle étape dans mon parcours cinématographique.
Marion Cotillard est ce soir sur le plateau de C'est à vous. Bonsoir, chère Marion Cotillard. Bienvenue sur le plateau de C'est à vous. Christiane Taubira et toute l'équipe. Merci de votre présence ce soir à l'occasion de cette nouvelle étape dans votre parcours cinématographique, vos premiers pas de productrice. On va y revenir longuement avec ce film bouleversant, magnifique, essentiel, Bigger Than Us, qui met en lumière les plus jeunes d'entre nous qui changent le monde. Et leurs actions sont assez incroyables et admirables. Juste un mot sur votre émotion face à Penélope Cruz. Ces larmes, vous en étiez la première surprise. Vous avez été submergée, même si vous n'avez pas tout compris et pas compris tous les compliments que vous faisiez Penélope Cruz.
Non, c'est vrai. Je, malheureusement, alors que j'adore cette langue, je ne parle pas l'espagnol. Mais c'était surtout une surprise et je ne m'attendais pas. J'étais assez prête, j'avais mon discours, j'étais tranquille. Et puis en fait, en même temps, ça a rendu, je pense, mon discours un petit peu plus vivant parce que j'étais partie comme une espèce de machine.
De guerrière, parce que c'est une guerre que vous menez avec ce magnifique film pour mettre en valeur ses actions. Mais je vous dis juste ce qu'elle a dit, parce que les compliments valaient le coup quand même d'être entendus. Elle dit que vous avez bonté, vérité et magie. À vous toute seule, ces trois qualités-là, avec sa voix et ses yeux incroyables, elle est capable de donner à n'importe quelle conversation banale le charme d'un poème.
Waouh. Alors, merci pour la traduction.
Et je compte sur vous pour donner à ma conversation banale le charme d'un poème. Je sais que Christiane Taubira le fera dans quelques secondes. Merci beaucoup de nous accompagner ce soir.
Merci.
Vous restez avec nous toutes les deux pour poursuivre cette conversation et vos engagements sont un peu jumeaux, si je peux le dire ainsi. A tout de suite pour la suite de C'est à vous, avec Le Vu, la story média de Mohamed Bouafsi, L'œil de Pierre et les actualités de Bertrand Chameroy. On vous attend.